Parlons Europe. En partenariat avec Madame Rivasi. Une émission financée par le groupe Les Verts ALE, Alliance Libre Européenne au Parlement européen.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Nous voilà encore à Valence, dans les locaux de Madame Rivasi, pour une troisième émission sur l'Europe. Nous avions conclu sur une précédente émission financée par la représentation en France de la Commission européenne associée à la Fédération nationale des radios associatives, que la perception de l'Europe par les citoyens était confuse. Depuis, sur cette lancée, Madame Rivasi, et nous la remercions, a accepté de financer un cycle de 6 émissions sur RDWA, sur son budget annuel de communication de députés européens, dans le but de contribuer à faire comprendre quelques rouages et actions de cette institution qui nous concerne tous. Aujourd'hui, nous allons parler de santé, une spécialité qui passionne Madame Rivasi, qui d'ailleurs vient de sortir un bouquin, si je ne m'abuse, sur le racket des laboratoires pharmaceutiques. Je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler dans cette émission. Avec nous pour en parler de ce sujet, Madame Rivasi, bonjour.
Bonjour.
Wilfried Sanchez, directeur de la fondation Rovaltin.
Bonjour.
Dominique Verdet, médecin homéopathe à Die.
Bonjour.
Erwan Fougère, candidat dans cette émission qui fait un service civique à RDWA.
Bonjour à tous.
Alors, Madame Rivasi, je vais vous donner tout de suite la parole, parce que quand on regarde un peu la liste de ce que fait l'Europe en matière de santé, bien qu'elle n'ait pas de responsabilité, c'est le principe de subsidiarité qui joue, mais quand on regarde un peu ces innombrables potentielles tâches, c'est une liste à la Prévert, je vais vous en citer quelques-uns, hein. L'organisation et la prestation des soins de santé, elle aide les pays membres à atteindre des objectifs communs, elle participe à des missions de prévention, promeut l'égalité des chances, elle lutte contre les menaces sanitaires graves, pour le maintien des personnes âgées en bonne santé, la promotion des systèmes de santé dynamiques, financer les projets en matière de santé, adopter des normes et réglementations, la lutte contre les cancers. Je ne vais pas tous les citer, il y en a une tripotée, mais en fait, concrètement, que fait l'Europe en matière de santé ?
Alors, c'est vrai que je m'occupe beaucoup de santé au niveau européen. Alors, comme vous dites, il y a vraiment deux domaines. Tout l'aspect, je dirais, sécurité sociale, soins, vous voyez, l'organisation des soins, c'est de la souveraineté des États. Par contre, quand on s'adresse aux médicaments, vous voyez, tout ce qui est autorisation de mise sur le marché, tout ce qui est normes et réglementations, ça, c'est du ressort de l'Europe. Lorsqu'il y a des pandémies, vous voyez, des épidémies, on l'a vu sur la grippe H1N1, par exemple, on le voit sur Zika à l'heure actuelle, ça, c'est du domaine de l'Europe. Vous voyez, quand il y a, ça va dépasser les frontières, là, il y a une responsabilité de l'Europe. Et sur les normes, lorsque vous voyez qu'en ce moment, on parle beaucoup des perturbateurs endocriniens, hein, c'est-à-dire comment on va d'abord définir ce que sont les critères des perturbateurs endocriniens, parce que c'est dans les directives européennes, que ce soit les directives sur les pesticides, que ce soit les directives sur les biocides, que ce soit sur les OGM, que ce soit même sur la pollution de l'air, c'est du domaine de l'Europe. Et là, on voit bien que les lobbies interviennent aussi bien au niveau de la Commission européenne, interviennent au niveau du Parlement européen, et que chaque État membre veut en quelque sorte conserver, si vous voulez, la suprématie de son industrie. Et que là, il faut vraiment une volonté pour être sur l'intérêt général et non pas sur l'intérêt particulier de certains lobbies.
Alors justement, dans cet ordre d'idée, le citoyen lambda pourrait être un peu déçu parce qu'il y a des décisions qui pourraient ressembler à des décisions de bon sens qui ne sont pas prises. En parlant de perturbateurs endocriniens, récemment, l'actualité l'a prouvé que les décisions n'étaient pas prises dans le bon sens. Enfin, en tout cas, il y avait un peu, pas de couardise, mais en tout cas...
Ah, mais c'est très grave, hein, ce qui se passe sur les perturbateurs endocriniens, mais on finit par gagner. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, le Parlement, vous voyez, dans les années 2007 et puis 2012, avait dit il faut que la Commission, vous voyez, ça c'est le Parlement européen, hein, donc les 751 députés européens qui représentent les 28 États membres, avait dit il faut que la Commission établisse ce qu'on appelle... C'est quoi une définition précise d'un perturbateur endocrinien, mais une définition scientifique. Et après, en fonction de ça, eh bien, on pourra éliminer certains perturbateurs endocriniens s'il n'y a pas de produit de substitution. Eh bien, la Commission, plutôt que de faire ça, elle devait faire ça en décembre 2013, ben, dit sous l'influence d'ailleurs des lobbies, parce qu'on a retrouvé les mails, vous voyez, de gros lobbies, notamment dans la chimie et puis dans les plastiques, on dit non, il faut d'abord faire une étude d'impact économique, c'est-à-dire en fonction du nombre de perturbateurs qu'on va enlever, combien ça va coûter à l'industrie. Ce qui est un truc incroyable, puisque ce n'est pas la définition des perturbateurs endocriniens. Et on est en décembre 2014, rien n'est fait. En décembre 2015, rien n'est fait. Et là-dessus, il y a la ministre de la Santé suédoise qui dit « Moi, je voulais enlever des perturbateurs dans mon pays de la Suède, mais tant que la Commission n'a pas défini les critères, je suis coincée. » Donc elle attaque directement à la Cour de justice européenne pour défaut de carence, c'est-à-dire de ne pas avoir effectué ce pourquoi la Commission est mandatée. Là-dessus, le Parlement suit cette ministre ainsi que des États membres. Et le 16 décembre 2015, on obtient de la Cour de justice européenne comme quoi la Commission n'avait pas effectué son travail, donc elle était hors la loi, et que le fait de faire une étude d'impact, ce n'était pas de sa compétence. La semaine dernière, il y a eu un grand débat en plénière où on a interpellé le commissaire de la Santé, M. Andriukaitis, en disant « Mais qu'est-ce que vous faites ? Si maintenant la Commission ne respecte pas les traités de l'Union européenne, alors où est-on ? Nous, le Parlement, on fait notre boulot, et vous ne le faites pas. » Et là, vous voyez, on a fait bouger les lignes, puisqu'il s'est engagé qu'avant l'été, il y aurait les critères sur les perturbateurs endocriniens. Alors moi, j'avais la feuille où j'avais déjà les critères, puisque la Direction générale de l'environnement, à l'époque, avait établi les critères. Et j'ai dit à M. Andriukaitis, dès demain, vous pouvez les prendre, ces critères. Et à ce moment-là, après, on peut éliminer certains pesticides, parce qu'il y en a partout, des perturbateurs. Il faut bien expliquer aux auditeurs que ce sont des molécules qui perturbent le fonctionnement hormonal de l'individu. Et ça agit à très faible dose. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle, suivant la fenêtre d'exposition. Si une femme est enceinte, à une période, le fœtus, s'il est confronté à ces perturbateurs endocriniens, ça peut entraîner des problèmes d'obésité par la suite, des problèmes de cancer, des problèmes même de comportement qui dérèglent complètement son organisme. Donc il y a urgence. Et donc, on ne peut plus se servir des mêmes critères qu'à l'époque, pour une substance chimique, on disait que plus la dose était importante, plus l'effet était important. Or là, ce n'est pas du tout le cas. Donc il faut complètement qu'on change un peu de ce qu'on appelle le paradigme. Et donc, vous me dites, effectivement, les lobbies étaient très présents, mais là, il y a eu une mobilisation citoyenne. Toutes les ONG, toutes les assos ont boosté la Commission. Et vous voyez, cette attaque, c'est la première fois que ça arrive, que la Cour de justice européenne dit « La Commission, vous ne faites pas respecter la loi ». Et bien, ça fait bouger les lignes. Et alors, malheureusement, le commissaire dit « On va continuer l'étude d'impact ». On va essayer de l'accélérer, mais je lui dis, mais c'est pas votre boulot. C'est comme si on demandait à une industrie chimique, il y a un pesticide qui est hyper dangereux, on va lui demander combien ça va lui coûter d'enlever le pesticide. Enfin, on est où, quoi ? On n'est pas sur la protection de la santé des gens, on est sur la garantie du profit de l'industrie chimique. Donc voilà à quoi ça sert, cette mobilisation citoyenne, des députés européens qui veulent que la Commission respecte la loi, mais c'est un rapport de force.
J'ai entendu parler de REACH, la réglementation REACH, qui a, si je ne me trompe pas, pour but de justement un peu réglementer tous les produits qui sont entre guillemets en libre accès ou en vente sur le territoire européen. Alors déjà, est-ce que ça serait possible d'avoir un petit rappel un peu plus exact de ce qu'est REACH, pour moi qui ne connais pas forcément en détail ? Et ensuite, en quoi est-ce que ça influence véritablement, à l'heure actuelle et dans les temps à venir, les produits mis en vente et accessibles sur le territoire européen ?
Alors, vous avez raison de parler d'une réglementation très importante, qui est cette réglementation REACH. Alors, c'est une réglementation de 2007 qui a été faite par l'Europe. Les écologistes ont beaucoup contribué à cette réglementation parce qu'il y avait à peu près 100 000 molécules chimiques. Vous voyez, la chimie, elle a pris un essor incroyable dans notre environnement. Et on s'apercevait que l'industrie et les pouvoirs publics n'avait pas fait d'études sanitaires environnementales. Et donc, il y avait aussi une épidémie de cancer. Regardez autour de vous, quand on voit qu'il y a 350 000 cancers de plus par an, ça n'existait pas il y a une vingtaine d'années. Donc, cette réglementation REACH oblige l'industrie, avant de sortir un produit avec des substances chimiques, de faire une vraie évaluation sanitaire. Et ce sont les agences, et notamment l'ECA, qui est une agence à Helsinki, qui regarde si cette substance, elle est cancérigène, elle est mutagène ou elle est reprotoxique. Si c'est le cas, c'est une étude de danger. À ce moment-là, on ne la met pas dans le, vous voyez, à l'extérieur. Si ce n'est pas le cas, eh ben, l'industriel peut très bien donc sortir son produit avec ses substances chimiques. Il y a à peu près, sur les 100 000 molécules, 30 000 molécules à l'heure actuelle qui ont été évaluées. Et vous voyez que là, il y a une liste où les molécules qui sont, comme je vous indiquais tout à l'heure, ou protoxiques, mutagènes, etc., sont éliminées. Ou s'ils ne le sont pas, eh bien, on donne un temps à l'industriel pour qu'il trouve des produits de substitution. Les perturbateurs endocriniens, ce sont aussi des substances chimiques. Comme exemple, les gens ont entendu parler du bisphénol, vous savez, qui était dans les biberons, parce que ça, c'est un produit qui permettait d'avoir une certaine, à la fois, élasticité et rigidité au niveau du plastique. Sauf qu'on s'apercevait que quand le lait était chaud, eh bien, ce bisphénol traversait et allait dans le lait. Et puis, ben, l'enfant pouvait avoir après des problèmes de cancer pour la suite. Il y a le problème des phtalates, il y a le problème du parabène, il y a le problème du mercure qui est un perturbateur endocrinien. Donc, mais il nous fallait une définition. Et vous voyez que ça, ça n'y était pas dans la réglementation REACH. Donc c'est enrichir, si vous voulez, les critères pour pouvoir éliminer ces substances dans notre environnement. Et donc diminuer les cancers, diminuer les problèmes de malformations génitales, etc., etc.
Monsieur Sanchez, avant de donner la parole à Monsieur Bonnefond, que j'ai enregistré préalablement, vous travaillez donc à un pôle qui travaille sur la fabrication, la mise en point de tests pour justement tester les produits chimiques, si je ne m'abuse. Dites-moi si je me trompe, hein, c'est possible.
Alors, c'est pas exactement ça. Effectivement, moi, je suis le directeur général de la Fondation Rovaltin, qui est la structure à but non lucratif d'un projet drômois qu'on connaît sous le nom de Pôle Écotox, et qui a pour objectif, effectivement, de permettre le développement de la connaissance sur des sujets en lien avec la thématique santé-environnement, comment notre environnement influence notre santé. Effectivement, les activités des structures qui sont dans ce pôle Écotox recouvrent aussi bien la mise au point et la mise en œuvre de tests réglementaires que la réflexion et la diffusion de connaissances autour de ces sujets santé-environnement, dont les perturbateurs endocriniens font partie.
Votre structure a été, si je ne m'abuse, en partie financée par l'Europe.
Alors effectivement, la création du pôle Écotox bénéficie de différents financements, dont des financements européens fléchés vers le territoire, puisque c'est, je décris ça comme un échange en quelque sorte d'informations et de pratiques. L'Europe a permis de financer la mise en œuvre d'un équipement d'excellence sur la Drôme. Et les données qui seront produites en Drôme permettront de faire avancer les réglementations qui sont mises en place au niveau européen.
En tant que professionnel, ça ne vous effraie pas toutes ces innombrables molécules qu'on met tous les ans sur le marché, dont on évalue la dangerosité, mais sait-on ce qui va se passer dans une quinzaine, vingtaine d'années, hein? Je ne sais pas, en voiture, on parlait de combien de molécules qui étaient mises sur le marché tous les ans?
Pas de molécules mises sur le marché, mais de molécules créées par an, il y en avait environ 20 000. 20 000 par an.
Et on ne parle même pas des nanoparticules qui sont un vaste champ de mystérieux qu'on a à peine exploré. Donc, est-ce que vous n'avez pas peur de toute cette chimie qui pourrait se révéler à terme dangereuse?
Je pense que la peur, c'est pas obligatoirement le sentiment qui décrit le mieux ce que je pense vis-à-vis de ces molécules-là. J'ai pleinement confiance dans les réglementations qui sont mises en œuvre et l'avancée des connaissances. Faut effectivement laisser le temps. La science évolue et la réglementation essaye de s'en emparer. Il y a un delta de temps qui est pas négligeable entre les deux et il faut en tenir compte. Bon, effectivement, on découvre de plus en plus les faibles doses, les effets cocktails, les fenêtres d'exposition sensibles pour les perturbateurs endocriniens. Michel Rivasi décrivait ça parfaitement bien dans ses propos. Alors effectivement, faut mettre ça en œuvre. Il y a une réglementation qui est mise en place pour s'assurer qu'on minimise le risque. Il faut vraiment faire la part des choses entre le danger d'un côté et le risque de l'autre. Donc on fait le nécessaire pour minimiser le risque. Il faut pas crier au loup trop rapidement parce qu'on se heurte à l'écueil de ce qu'on pourrait appeler la substitution. Effectivement, on pourrait être tenté de se dire une substance est dangereuse, éliminons-la et remplaçons-la par une substance qui n'est pas dangereuse en l'état actuel de nos connaissances. Et on n'est pas à l'abri que dans quelques années, le boomerang revienne un petit peu plus fort avec une substance qui aurait été autorisée au titre de la substitution et qui finalement serait plus dangereuse. Le bisphénol A était cité tout à l'heure. Dans une autre vie, j'étais expert à l'ANSES, l'agence sanitaire française, sur la question des perturbateurs endocriniens, où on a travaillé sur le bisphénol A et puis sur ses substituts. Alors quand on évalue la dangerosité du bisphénol A, on croule sous les études scientifiques pour se positionner. Et puis quand on regarde les substituts d'autres bisphénols, comme par exemple le bisphénol S, le bisphénol F, ben on a très peu de données. Donc c'est dur de donner le même poids. Et on pourrait être tenté de se dire, ben oui, le bisphénol S, c'est un substitut qui est valable. Et puis finalement, cette substance, elle arrive sur le marché, on développe de l'étude, et on va peut-être se rendre compte, et à l'heure actuelle, il y a un certain nombre de papiers scientifiques qui sortent sur le sujet, que finalement, bisphénol S et bisphénol A, c'est un petit peu la même chose. Et donc, voilà, il y a un besoin de réflexion, de maturité, et de pas trop se dire, on interdit rapidement. Voilà, il faut aussi se laisser le temps de la substitution efficace.
Dominique Verdet, lorsque M. Sanchez clamait haut et fort sa confiance dans les institutions et les réglementations, vous avez...
J'ai un petit sourire.
Un petit sourire, voire émis un certain doute.
Oui, parce que d'abord, une étude avant la mise sur le marché, est-ce qu'elle est assez longue pour voir les conséquences sur le long terme ? On est dans un monde où on vit vraiment sur le moment. On fait les choses sur le moment pour avoir une réaction tout de suite, immédiate, et on ne voit pas le futur, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Puis après, effectivement... Comme vous avez dit, c'est pas parce qu'on est sur une molécule nouvelle qu'elle n'a pas de problème, elle aussi, quoi. Et je ne suis pas sûre que les mêmes industriels qui ont produit un premier produit ne mettent pas un deuxième produit de substitution qui n'ait pas lui aussi des conséquences qu'on ne connaît pas encore, quoi.
Moi, je voulais réagir par rapport à ça parce qu'il y a deux écueils, je trouve, énormes. Il y a ce que vous dites et on a l'exemple typique sur les OGM. Mmh. Vous voyez, quand on regarde comment nos agences européennes évaluent les OGM... Moi, j'ai fait intervenir Générique Serralini la semaine dernière sur un OGM qu'on appelle, c'était le maïs 176. Il a fait une étude sur 3 ans, hein, sur, par exemple, des vaches. Eh ben, au bout de 3 ans, il y avait énormément d'anomalies sur le foie, sur les reins, sur des paralysies qu'on ne pouvait pas voir avant puisque les études se faisaient sur 15 jours. Mmh. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'agence européenne l'avait fait sur 6 vaches pendant 15 jours. Donc on voit bien qu'il faut le faire à long terme. Et puis la deuxième chose, c'est qui font les études ? Ben, ce sont les industriels. Et donc, moi, j'ai critiqué l'EFSA l'autre fois, donc cette agence européenne sanitaire, en disant... Mais lorsque l'industriel vous donne cette étude, par exemple, sur les vaches, là, 15 jours sur 6 vaches, ben, vous voyez bien que c'est insuffisant. Quand vous avez les études sur 3 mois sur des rats, par exemple, on s'est aperçu que sur 1 an, on n'avait pas du tout les mêmes résultats. C'est à vous à exiger d'autres études scientifiques. L'industriel, lui, va se limiter. Il se dit, puisqu'il n'est pas obligé de tout publier, et ça, c'est le gros souci de la transparence des études cliniques, il faut absolument qu'il publie tout et qu'on voit qu'il faut redemander à l'industriel. Donc, je trouve qu'on va... C'est, comme vous dites, c'est à court terme, donc insuffisant. Après, c'est très rapide. Et puis, il n'y a pas suffisamment d'exigences de nos agences pour demander à l'industriel des études complémentaires. Alors, moi, je suis ravie que le pôle Écotox va pouvoir aller plus loin. Mais quel risque on fait courir à la population ? Parce que quand vous êtes malade, quand votre gamin a des malformations génitales parce qu'il a consommé ou il était dans un environnement où il y avait des perturbateurs endocriniens ou d'autres substances chimiques nocives, eh ben c'est vous qui en portez les conséquences. Et la réglementation suivante, elle est en retard d'un métro. Regardez les perturbateurs, ça fait des années qu'ils sont sur le marché. Et c'est maintenant qu'on va faire les critères scientifiques. Donc, on n'anticipe pas assez. Et je trouve que vis-à-vis de l'industriel, on n'est pas assez exigeant parce qu'il faut arrêter. Alors, vous dites 20 000 substances par an hein, qui sortent par rapport aux industriels. Il faut vraiment qu'il y ait des études à la fois de danger, c'est-à-dire est-ce que c'est dangereux ou pas ? Est-ce que c'est reprotoxique, mutagène et cancérigène ? Si ça l'est pas, ok, mais alors il faut faire des études à plus long terme. Mais si ça l'est, il faut pas que ça sorte.
Je rejoins pleinement ce que dit Michel Rivasi. Effectivement, il y a un vrai temps, c'est ce que j'expliquais peut-être maladroitement tout à l'heure, il y a un vrai écart de temps entre ce qui est produit par la science au laboratoire et l'intégration en termes de réglementation. là, on parle d'une réglementation qui, en plus, est une réglementation substance par substance. C'est-à-dire qu'on va regarder l'effet du bisphénol A, l'effet du bisphénol S, l'effet d'un phtalate ou d'un autre phtalate. La réglementation, pour le moment, elle n'embrasse pas du tout ce concept d'effet cocktail, d'exposition à des mélanges. Voilà, il va falloir du temps pour intégrer ça. La science commence à peine à appréhender ces questions-là. Donc, avant d'en faire quelque chose qui soit robuste du point de vue réglementaire, il faut du temps. Et pour les faibles doses et les effets long terme, eh ben, c'est un petit peu pareil. Voilà, c'est des concepts qui sont nouveaux. Il faut du temps. Tout à l'heure, vous évoquiez la question de justement ces effets long terme et les tests qui sont relativement en cours. Il y a une notion qu'il ne faut pas oublier, qui est très présente chez les pesticides, mais aussi dans d'autres familles de molécules. C'est ce que l'on appelle le suivi post-homologation. C'est-à-dire qu'une fois qu'une substance a été autorisée sur le marché sur la base de tests qu'on pourrait critiquer parce que relativement court, on fait un suivi de ces substances dans le temps avec quelque chose qui se rapproche de l'épidémiologie. Et donc, il y a une vraie surveillance qui est confiée aux agences sanitaires. Ça marche aussi pour les médicaments, par exemple. Ou si on voit quelque chose sur des substances, on tire le signal d'alerte et on revient sur des études, voire de la réglementation. Voilà, c'est assez difficile de dire à un industriel faites-moi un test sur 3, 4, 5 ans. Voilà, sachant qu'à un moment donné, on n'est pas à l'abri, qu'on ait un problème qui se déclenche, qu'on sera dans des conditions réelles d'exposition.
Oui, mais en même temps, c'est obligatoire parce que moi, j'aurais envie de parler maintenant des vaccins et de l'obligation vaccinale en France par rapport à l'Europe. Je crois qu'en France, on a encore le DTP qui est obligatoire. Et depuis, je vais dire à peu près, ça fait une dizaine d'années qu'on ne le trouve pas, le DTP, qui est le seul vaccin obligatoire des petits bébés, on ne le trouve pas sur le marché. Les laboratoires fabriquent que des vaccins avec plusieurs valences autres, type pneumocoque, méningocoque, rajoutés aux trois valences diphtérie, tétanos, polio. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un médecin fait un vaccin obligatoire, s'il y a un problème, c'est le laboratoire qui est responsable. Quand un médecin fait un vaccin avec un vaccin qui n'est pas obligatoire, qui contient plus de valences, un pentacoque, un hexacoque, s'il y a un problème, c'est le médecin qui est responsable. Donc je trouve que la France là-dessus n'est pas juste du tout parce qu'elle donne la responsabilité à des médecins en empêchant ou en cautionnant les laboratoires qui ne fabriquent plus des vaccins qui, soi-disant, étaient plus toxiques à trois valences. Moi, je voudrais qu'on m'explique comment, avec trois valences, un vaccin peut être plus toxique qu'avec cinq ou six valences.
Alors, je suis contente que vous abordiez le problème des vaccins, parce que vous avez tout à fait raison, c'est un vrai scandale. Moi, j'ai interpellé notre ministre Marisol Touraine là-dessus en disant, écoutez, vous dites obligation vaccinale. Or, on ne trouve pas ce vaccin dans les pharmacies. Et donc, le patient, eh ben, il est obligé d'acheter l'hexavalent avec trois maladies supplémentaires. En plus, là, elles sont recommandées, les trois autres. Mais il y a l'hépatite B là-dedans. La fameuse hépatite B qui a posé plein de problèmes à l'époque sous Douce de Blasi et Kouchner. Et donc, je trouve qu'on est en train de tromper le patient. Parce qu'on lui dit, bon, on ne trouve pas le 3 obligatoire, donc vous avez le 6 avec la responsabilité du médecin. Quand on a interpellé la ministre là-dessus, et les labos disent, ah, mais il y a une pénurie, parce qu'il y a une telle demande mondiale qu'on ne trouve pas ce DTP. Or, je leur ai dit, mais c'est bizarre qu'on ait une pénurie en France, alors qu'au Maroc, on a le DTP.
Et qu'on peut faire 1,5 million de vaccins en un mois quand on nous parle d'une grippe pandémique qui arrive en...
Exactement. Donc, on voit bien que cette pénurie, elle est organisée. Alors, je dis souvent, à qui profite le crime ? Quand on voit le DTP, ça coûte 6,50 €. L'hexavalent coûte 40 €. Donc vous voyez bien que le crime profite au laboratoire. Ils se font un profit maximum. Et puis après, le problème de la responsabilité des médecins. Et puis après, il y a un troisième problème, c'est les adjuvants avec les vaccins. Le DTP, à l'heure actuelle, on ne le trouve qu'avec de l'adjuvant qui est à base d'aluminium. Or, il y a des études, comme l'étude de Gherardi, Dautier, qui montrent que cet aluminium est neurotoxique. Soit il provoque des myofascies, un macrophage, c'est-à-dire des problèmes articulaires incroyables parce que cet aluminium est stocké, ou cet aluminium peut migrer au niveau du cerveau. Donc on leur dit, comment se fait-il que dans les années 2008, il y avait un DTP à base de phosphate de calcium ? Et là-dessus, il y a eu truandage des données pour dire « Ah, mais le phosphate de calcium a entraîné plus de risques. » Oui, sauf que d'une année sur l'autre, ils avaient tout reporté à une année où ils voulaient éliminer. Vous savez, quand on dit que son chien a la rage, hein, bon, on continue. Et là, eh ben, on lui dit « Mais nous, on demande à ce qu'on ait un autre adjuvant. » Eh bien, il y avait blocage. Et puis, dernièrement, Marisol Touraine a commencé à comprendre le problème parce qu'il y a une mobilisation citoyenne énorme sur ce DTP. Et d'ailleurs, il y a eu la pétition de M. Joyeux qui a obtenu plus de 700 à 800 000 signatures. Donc, on voit qu'il y a une demande sociale là-dessus. Elle a commencé à dire « On va sanctionner les labos s'ils ne sortent pas ces vaccins. » Et ça vous fait comprendre qu'avec la mondialisation, moi, je disais « Mais vous voyez qu'il n'y a même pas de sécurité ?» sanitaire en France, puisqu'il y a une telle délocalisation, ça se fait ailleurs, et il n'y a plus de fabrication en France, soi-disant. Donc, ben, ils n'ont qu'à fabriquer ça. Comme vous dites, quand il y a une pandémie sur la grippe H1N1, eh bien, très rapidement, ils sortaient les vaccins. Pour la grippe saisonnière classique, ils sortent les vaccins. Alors, pourquoi ils ne sortent pas ceux-là ?
Alors, je vous propose, après ces différentes interventions, d'écouter le témoignage de Monsieur Bonnefond, qui va se présenter lui-même, donc je vais le laisser le faire, et qui répond à un certain nombre des interrogations que les citoyens se posent sur l'efficacité de nos institutions. Monsieur Bonnefond, bonjour.
Bonjour.
Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît ?
Oui, alors je suis pharmacien installé à Montélimar, je suis président du syndicat des pharmaciens de la Drôme, vice-président de l'Union régionale des professions de santé pharmaciens au niveau de la région Rhône-Alpes-Auvergne, et puis président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine au niveau national, donc un des deux syndicats représentatifs de la profession.
Vous savez que nous sommes dans une émission concernant la santé et l'Europe. Que fait l'Europe en matière de santé ? En matière générale, qu'est-ce que vous pourriez en dire de l'action de l'Europe en matière de santé ? Est-ce que ça vous satisfait ? Est-ce qu'elle devrait en faire plus ? Ou devrait-elle même s'abstenir ?
Non, bon, l'Europe a un pouvoir politique, réglementaire important. Hein. Si on veut avoir une politique de santé cohérente sur le territoire européen, il est important que l'Europe se mêle de santé. On a déjà l'autorisation de mise sur le marché des médicaments qui se font sur des autorisations qui sont maintenant à un niveau européen et pas à un niveau national. On a un débat sur la lutte contre la contrefaçon, qui se passe au niveau européen, et c'est indispensable pour lutter contre les médicaments contrefaits vendus sur Internet avec des règles qui doivent être beaucoup plus homogènes sur l'ensemble du territoire européen. Il y a actuellement un débat sur la dispensation des médicaments vétérinaires qui sont très mal organisés en France, puisqu'il n'y a pratiquement que les vétérinaires qui délivrent des médicaments alors qu'ils sont prescripteurs, avec des abus très importants, notamment sur les antibiotiques, puisqu'ils sont à la fois intéressés par la prescription et intéressés par la marge qu'ils dégagent sur les médicaments qu'ils prescrivent. Tout ça est malsain, et donc l'Europe est en train d'y mettre un petit peu bon ordre pour éviter que nos animaux, que ce soit nos animaux d'élevage destinés à l'alimentation ou les animaux domestiques, ne soient trop exposés à des risques médicamenteux. Donc l'Europe est très importante. Après, là, c'est la limite. La limite, par exemple, c'est qu'on ne peut pas gérer l'organisation des installations de pharmacie quand on est en Suède, quand on est aux Pays-Bas et quand on est en France de la même manière. En France, on a un territoire très rural avec des pharmacies que l'on souhaite être présentes dans tous les villages. La France tient à ce qu'il y ait une règle d'installation des officines pour pas que l'on ait de désert pharmaceutique. Alors que l'Europe, à un certain moment, était plutôt ultralibérale en disant « Mais non, les gens s'installent n'importe où, et puis le marché fera le reste. » Ben non, si on veut des pharmacies dans des territoires comme le Diois, comme l'Ardèche, eh bien, il vaut mieux qu'on ait des règles permettant à des pharmacies d'être là et pas des pharmacies qui iraient juste dans des zones attractives et pas dans des zones rurales. Donc la limite de l'exercice, ça s'appelle le droit de subsidiarité, c'est que si on peut avoir des règles nationales parce qu'on a des spécificités territoriales et que ces règles doivent être adaptées à juste mesure permettant de pallier à une organisation du système de santé. Donc pour la pharmacie, l'État français a décidé de maintenir des règles qui n'existent pas qui sont différentes dans d'autres pays, et je pense que c'était absolument indispensable. Donc oui, l'Europe s'occupe de plus en plus de santé, mais il ne faut pas non plus qu'à un certain moment, elle veuille tout réglementer. Il y a des spécificités territoriales à respecter.
D'autant qu'il y a eu des débats assez fameux récemment. Hein, je pense par exemple au débat des perturbateurs endocriniens qui finissent par accoucher de résultats assez décevants pour beaucoup.
Oui, alors c'est vrai que le problème de l'Europe, c'est qu'à un certain moment, on est dans le compromis. Et souvent, on est dans le compromis, parfois un peu mou. C'est pas la faute des députés européens. Hein. C'est que c'est pas facile, à la fois d'avoir différentes parties politiques et tendances politiques mélangées avec des pays qui ont des intérêts parfois ou des sensibilités qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Plus ce que je ressens, alors avec mon regard un petit peu éloigné de ce qui se passe à Strasbourg ou à Bruxelles, c'est l'omniprésence des lobbies.
Tout à fait.
Les lobbies sont extrêmement présents, très organisés, très pesants, et font une pression très très importante sur les décisions des députés européens. Je pense que là, il y a un vrai sujet sur lequel il faut travailler. Alors, l'avantage, au moins, c'est qu'ils le font à visage découvert, contrairement à d'autres pays. Hein, c'est très clair, les lobbies sont là, sont reconnus en tant que tels. Mais je pense que la puissance financière de certaines organisations, que ce soit la grande distribution, que ce soit ceux qui sont pour l'utilisation de pesticides, sont extrêmement présents, extrêmement prégnants et atténuent des positions politiques qui pourraient être prises.
J'entends bien ce que vous dites sur le moins-disant, c'est-à-dire que la politique de compromis entre tous ces pays, tous ces intérêts divergents, fait qu'on choisit ce qui est acceptable par le plus grand nombre. Néanmoins, quand on prend le terme de santé de façon très large, on peut prendre aussi des exemples en matière de polluants pour les abeilles, qui c'est pas tout à fait de la santé, mais ceci dit, s'il n'y avait plus d'abeilles, on serait bien embêtés. Ou ils viennent d'accepter un certain nombre de maïs avec des OGM. Donc les citoyens, c'est un petit peu le sujet de la mission, ne comprennent pas pourquoi des décisions qui leur paraissent saines, voire évidentes, ne sont pas prises à cet échelon européen.
Il y a à la fois, on voit bien, il y a l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Hein. L'Europe du Nord, plutôt ultralibérale, le marché régule, et à la limite, le principe de précaution moins présent dans les mentalités, dans les politiques. L'Europe du Sud un petit peu plus attentive hein, à la santé, à l'organisation et à la réglementation. Donc déjà, on a parfois deux blocs, hein, pas toujours. Hein, les Scandinaves parfois peuvent prendre des positions un petit peu plus avancées, mais on a quand même cette tendance. Et puis après, le lobbying d'intérêts économiques propres. C'est-à-dire que quand vous êtes un pays, vous avez une grosse industrie des pesticides, de tout ce qui est phytosanitaire, etc. Bon, ben, ça met une pression très très forte sur le pays. Et quand c'est un pays prépondérant comme l'Allemagne, ça peut faire effectivement des situations de blocage ou de recherche de compromis. Moi, je suis d'accord avec vous sur l'utilisation des pesticides, le problème des abeilles aujourd'hui, que tout le monde, personne ne peut le nier, mais on cherche toujours des causes qui ne sont pas les vraies causes pour maintenir encore pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, la distribution de produits dits phytosanitaires pour gagner encore 6 mois de profit pour ces entreprises. Donc c'est extrêmement difficile. C'est en ça que les lobbyistes sont extrêmement puissants. C'est parce qu'ils sont capables d'atténuer, de gagner du temps, et tout ce qui est pris est pris. Et par contre, les abeilles, elles, ne résistent pas. Mais au-delà de ça, qui n'est pas toujours compréhensible, hein, effectivement, par le citoyen français, il y a des choses qui sont agaçantes. Et quand on prend des décisions, là on est sur la lavande, avec la lavande où on veut la classifier, la classer comme étant
un produit chimique,
un produit, on met en péril toute l'économie d'une zone qui est déjà en difficulté avec très peu d'alternatives. On est en train de remettre en question toute cette organisation pour une réglementation européenne que je qualifierais moi de pointilleuse, d'incompréhensible. Et donc c'est ça que ne comprennent pas les Français, et moi je l'entends. Il faudrait qu'on priorise certaines choses et que l'on évite hein, de ne pas respecter la situation particulière de certains pays qui ont des habitudes d'élevage. On ne peut pas tout harmoniser. On ne peut pas faire de la culture de lavande comme on le fait dans notre département.
Alors, Monsieur Bonnefond, si vous aviez une question ou si vous vouliez que Madame Rivasi pousse l'Europe dans la mesure de ses possibilités, car c'est un jeu politique très complexe, qu'est-ce que vous lui demanderiez? Quelle direction vous lui souhaiteriez que l'Europe prenne?
Alors, je suis pharmacien, donc je lui demanderai d'être attentive à ce qui est en train de se passer sur le médicament vétérinaire, où on sait qu'il y a une dérive aujourd'hui avec une surconsommation d'antibiotiques chez tous les animaux, avec des résidus de médicaments dans les viandes que l'on mange, et donc d'être très attentive à casser des conflits d'intérêts qui existent entre les vétérinaires qui sont prescripteurs et le vétérinaire qui est aussi celui qui vend le médicament. Je pense que ça, ce n'est pas sain, et on devrait séparer le prescripteur de celui qui peut gagner de l'argent sur des médicaments vétérinaires qu'il a lui-même prescrits. Je pense que ce n'est pas sain. Et là, l'Europe est en plein travail là-dessus, sur une directive qui permet de casser ce conflit d'intérêts évident. Donc ça, c'est un point qui me paraît important. Et ensuite, d'avoir une politique sur la santé, qui est de plus en plus européenne, avec une réglementation qui est indispensable, hein, au niveau européen. On ne peut pas avoir des dossiers d'autorisation de mise sur le marché, de contrôle de médicaments, qui soient spécifiques à la France ou spécifiques au Royaume-Uni et pas spécifiques à l'Europe. Je pense que ça n'aurait pas de sens. Mais sur l'organisation de la santé elle-même, de respecter le droit de subsidiarité. En France, par exemple, les pharmaciens ne peuvent pas s'installer n'importe où. Je crois que c'est bon pour les Français, et c'est bon pour la répartition homogène sur la dispensation des médicaments en France. On ne veut pas de capitaux extérieurs dans les pharmacies, parce que l'on veut que les pharmaciens soient indépendants de groupes financiers ou éventuellement de structures qui sont éloignées de la santé. Donc ça, c'est le droit de subsidiarité. Et bien sûr, le monopole des médicaments en officine. On sait que les lobbies de la grande distribution essaient de casser et de faire que le médicament soit un bien de consommation, soit consommé comme n'importe quoi et pas considéré comme un médicament. Et donc quand on veut lutter contre le mauvais usage des médicaments, il vaut mieux que ce soit des professionnels de santé dans des endroits réglementés, contrôlés par l'ARS, que sont les pharmacies, plutôt que de trouver ça dans n'importe quel drugstore. Donc voilà, moi ce que je dirais à Michel Rivasi, voilà, l'urgence, le médicament vétérinaire, c'est un sujet qui avance bien d'ailleurs, où l'Europe s'est posé des bonnes questions, mais je ne sais pas, comme vous le disiez, quel va être l'atterrissage. Oui, de continuer sur la sécurité, la lutte contre la contrefaçon. Oui, la sécurité des autorisations de mise sur le marché pour que les médicaments soient bien utilisés, de favoriser la recherche, parce qu'on a besoin d'avoir une recherche en Europe et pas être dépendant d'une recherche des États-Unis. Et puis pour l'organisation des soins avec les médecins, avec les pharmaciens, avec les infirmiers, et bien d'avoir là un maillage plutôt niveau national, territorial, avec des spécificités, et ne pas avoir une réglementation tatillonne de l'Europe qui viendrait désorganiser, sans faire de véritables propositions adaptées à ce que l'on connaît sur nos territoires.
Monsieur Bonnefond, merci pour votre participation et je vous souhaite une bonne continuation. Madame Rivasi va vous répondre instantanément.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Bah écoutez, je réponds, oui, mais je trouve que ces interrogations et son questionnement est tout à fait judicieux. Sur la directive en ce moment sur les vétérinaires, les médicaments vétérinaires, elle a tout à fait raison. Sauf que la France est un cas particulier. Lorsque, en commission santé-environnement, j'ai posé la problématique, vous voyez, du lien entre les vétos et la distribution des médicaments, c'est complètement anormal. Parce qu'il y a quand même, on voit bien dans les élevages, de volailles, dans d'autres élevages, on donne des antibiotiques, par exemple, en prévention. Mais ça, c'est anormal, parce qu'après, vous avez énormément de bactéries qui deviennent résistance aux antibiotiques. Et c'est vrai qu'après, on le trouve dans l'alimentation. Lorsque j'ai posé cette question, on m'a dit « Ouh là là, c'est pas possible, parce qu'après, on va avoir tous les vétos qui vont se mettre en grève, parce qu'ils n'auront pas une rémunération suffisante dans la mesure où ils sont directement un peu impliqués. » Et là, c'est un peu jugé parti, quoi. Alors qu'au Danemark, vous voyez, on a coupé le cordon. Dans les pays, alors on dit anglo-saxons, ben on a coupé le cordon. Et ça, c'est vraiment une position spécifique. Donc ça, moi, je suis d'accord. Mais après, qui c'est qui vote? C'est quand même les députés européens. Qui défend le fait que les vétos, eh ben, c'est quand même les conservateurs au niveau de l'Europe et au niveau de la France. Donc après, il faut bien quand même que les gens analysent les votes. Il faut qu'ils regardent les votes de leurs députés européens. Plus ils vont aller vers des gens qui sont sur le libéralisme, qui ne veulent pas voyez, avoir des réglementations qui bloquent un certain système. Sauf qu'ils vont encourager les conflits d'intérêts. Et là, on a des conflits d'intérêts typiques. Et là, la droite, eh ben, elle vote pour les conflits d'intérêts. Donc, à un moment, il faut savoir qui on choisit. Après, sur le fait de la subsidiarité, je suis d'accord que chaque pays doit être responsable de sa façon... Vous voyez, de mettre en place des pharmacies, je trouve ça tout à fait normal que ce n'est pas à l'Europe. L'Europe doit normer les choses, elle doit avoir une réglementation. Même l'Agence européenne des médicaments, que je critique fortement. Moi, je suis pour maintenir des agences nationales et des agences européennes pour qu'il y ait toujours des contre-pouvoirs. Parce que si vous maintenez, vous voyez, qu'une seule agence européenne... et qu'elle ait des conflits d'intérêts avec les laboratoires pharmaceutiques, vous ne savez pas comment vous allez voir s'il y a des problèmes. Surtout qu'il faut savoir que plus l'Agence européenne des médicaments donne des autorisations, plus elle est financée, puisque 80% de son financement vient des taxes qu'elle prend des autorisations de mise sur le marché. Et moi, j'aurais voulu plutôt que ça soit, vous voyez, l'Europe qui finance ça. Les experts, on a un gros problème d'experts. Il faudrait qu'il y ait des experts indépendants payés par les institutions. On a ce problème en France. L'expert qui est le mieux payé, c'est celui qui travaille pour les laboratoires pharmaceutiques. Et après, on vous dit, ah mais les meilleurs experts, c'est ceux qui viennent des labos. Oui, mais ils vont défendre le labo. Regardez sur l'affaire Servier. Tous les experts qui ont dit non, le médiateur, il n'y a pas de souci, etc. Mais c'était des gens financés par Servier. Si on veut avoir une vraie indépendance, il faut que l'État constitue un corps d'experts et qu'il paye correctement ses experts. Et que quand on va faire des évaluations de médicaments, de substances chimiques, de perturbateurs, etc., il faut que ça soit des experts indépendants. Sinon, on n'a aucune garantie qu'ils ne soient pas poussés par l'industrie ou par des labos, etc. Donc voilà, moi, je suis tout à fait pour qu'il y ait des institutions indépendantes. Je suis pour favoriser les contre-pouvoirs. Je suis pour que l'Europe fasse la réglementation, mais laisse les États membres. Mais juste un petit problème quand même par rapport à ce qu'il dit. Regardez, le prix des médicaments, c'est chaque État qui le fixe. Or, à l'heure actuelle, il y a une explosion du prix du médicament parce que ce sont les labos qui disent, voilà, ce prix du médicament, il sera comme ça. Mais ils sont tellement chers. Regardez le sofosbuvir, le médicament qui soigne l'hépatite C. On le paye quand même 41 000 euros pour un traitement de 6 semaines. Comme on a 200 000 personnes qui ont l'hépatite C, eh bien, on ne peut pas toutes les soigner. Et vous voyez que si c'est les labos qui prennent le pouvoir pour fixer le prix du médicament et faire la pression sur les États membres, eh bien, on va faire exploser le compte de la Sécurité sociale. Donc moi, j'étais pour que les États membres puissent, si vous voulez, s'organiser entre eux. Il pourrait très bien avoir 5 États membres, vous voyez, entre l'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'Espagne, l'Italie, vous voyez, qui s'organisent pour faire des appels d'offres et pour dire aux labos, à ce prix-là, ce n'est pas possible. Le sofosbuvir, 41 000 euros, vous voyez, pour un patient pour 6 semaines, on a fait une évaluation indépendante, ça coûte 100 euros au labo. Donc, vous voyez qu'en ce moment, ils prennent le pouvoir et sur les nouveaux médicaments sur le cancer, c'est des médicaments, des fois, à 2 000, à 5 000, à 10 000 francs la dose. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas soigner tout le monde. Et que là, on voit bien que si on laisse le marché, vous voyez, prendre le pouvoir, eh bien, eux, ce qui les intéresse, c'est le profit immédiat. Et après, ils disent, en France, par exemple, on voit Sanofi, ah ben, on va licencier 600 personnes, ils ont déjà licencié plus de 2000 personnes depuis 2008. Eh bien, il faut leur faire le chantage en disant, si vous licenciez, eh ben, on va diminuer de 20% le remboursement de vos médicaments, puisque tout l'argent qui se fait, c'est sur le remboursement des médicaments. Donc voilà, il y a un vrai rapport de force à avoir.
Moi, je voudrais juste rebondir parce que je ne suis pas sûre en plus que parce qu'on détruit, qu'on ne retrouve plus le virus de l'hépatite C dans les prises de sang, qu'on ait vraiment guéri le patient après ce traitement. Déjà, il y a une chose qui est importante, c'est que le terrain fait beaucoup plus que la destruction du virus ou de la bactérie. Les virus, les bactéries, il y en a partout. Il y en a plein la pièce, il y en a plein notre table, il y en a sûrement plein le micro. Et pourtant, on s'en fout souvent. Quand ils commencent à être agressifs, on peut se poser la question, pourquoi on les laisse rentrer? Qu'est-ce qui fait qu'on les laisse rentrer? Donc là, il y a peut-être effectivement les perturbateurs endocriniens. Il y a sûrement beaucoup de choses. Mais je ne suis pas sûre qu'un anti-quelque chose, un antiviral, un antibactérien, soit vraiment le problème de la santé de l'Europe actuellement. Il y a un truc qui me vient en vous écoutant, c'est que je pense qu'on a une société qui est basée sur la peur de manquer. Et du coup, sur la compétitivité, sur être le plus fort, sur celui qui doit se battre pour y arriver. Et je pense que notre médecine, elle est exactement formée comme ça. C'est-à-dire qu'il faut être plus fort que le virus, il faut tuer les mauvaises cellules, il faut tuer tout ce qui peut être considéré comme agressif dans la nature. Je pense que ça correspond à notre société. C'est peut-être une valeur qui est en train de disparaître maintenant parce qu'il y a d'autres valeurs qui apparaissent, comme la coopération, le partage, l'importance de la joie, l'importance de l'interdépendance. Et je pense qu'en travaillant là-dessus, on aurait beaucoup plus de raisons de faire avancer la santé dans l'Europe qu'en mettant énormément d'argent à essayer de contrer ou de limiter ce que font les laboratoires aujourd'hui. Et je rebondis encore parce que j'ai vu il y a quelques jours sur Internet un petit message qui m'a choquée. Les cerisiers français sont pleins d'une petite mouche qui fait des vers. Moi, personnellement, depuis que je mange des cerises, il y a toujours un vers dedans. Mais il paraît que les cerises françaises avec des vers, ça ne se peut pas. Donc il y a un grand monsieur qui s'appelle Xavier Benin, qui est le président de la FNSEA, qui a poussé un coup de gueule pour dire que la France avait fait un excès de zèle en stoppant la mise sur le marché d'un organophosphoré qui s'appelle le diméthoate, qui est un organophosphoré, donc un pesticide extrêmement toxique, qui est connu pour sa toxicité. Et lui, parce qu'il va y avoir des petits vers dans nos cerises, il demande, et il ne voit que cette... Le plus grave, c'est qu'il ne voit que cette solution pour traiter les cerisiers français. Il demande que la France fasse une sorte de passe-droit pour permettre à cette molécule d'être répandue.
Est-ce qu'au final, on ne laisse pas un peu trop de possibilités, de permissivité à des entreprises pharmaceutiques et pas assez certainement peut-être à l'Union européenne et de fait aussi aux États membres de l'Europe sur la transparence, l'exactitude des tests sur chacun des produits chimiques, pharmaceutiques qui sont mis en vente? On parlait tout à l'heure justement un peu du nombre de molécules qui viennent sur le commerce par an et du fait qu'il n'y a pas forcément toujours un test assez long ou assez efficace avant la mise en vente. Au final, est-ce qu'on a vraiment, entre guillemets, le contrôle en tant qu'Union européenne et en tant qu'État sur ces mêmes produits, sur ces 10 produits qui sont mis en vente ?
Sur le volet réalisation des tests et donc caractérisation du danger, il y avait un élément de réponse tout à l'heure dans les propos de Michel Rivasi. Quand REACH a été mis en place en 2007, on a souhaité que l'apport de la preuve soit porté par l'industriel, ce qui était un vrai changement, puisqu'avant, on demandait au pouvoir public d'amener les éléments. Et donc, c'était les pouvoirs publics, financés par les impôts de chacun, d'aller faire les études sur les substances qui étaient mises sur le marché. En 2007, avec REACH, on s'est dit, non, c'est pas aux citoyens de payer pour avoir la preuve d'un danger ou d'une innocuité d'une substance, c'est à l'industriel de le faire. Et donc maintenant, on demande aux industriels de faire les études, ce qui fait apparaître effectivement le soupçon, c'est l'industriel, donc c'est pas clean. La barrière, c'est effectivement l'ECHA, l'Agence européenne des produits chimiques, qui est basée à Helsinki, et qui examine les dossiers qui lui sont amenés par les industriels. Alors, elle les examine au regard de la réglementation. C'est-à-dire, que demande la réglementation ? Est-ce que l'industriel répond à cette réglementation, et donc est-ce que la substance elle peut être classée ou pas dans telle et telle catégorie, et en fonction de ça on la met ou pas sur le marché avec ou pas des restrictions d'usage.
Mais justement, du coup, je vais rentrer complètement dans le rôle qui est le mien, ouais, Candice, ouais. Justement. Au niveau de la réglementation, je vais peut-être être un peu plus précis sur cette question. Concrètement, qu'est-ce qui est demandé à une entreprise industrielle sur la pharmaceutique ou sur la chimie pour sortir un produit, justement? Qu'est-ce qu'on lui demande avant de sortir ce produit? Parce que, du coup, de ce que j'ai cru comprendre, ils peuvent très bien sortir un test qui peut être aussi bien fait sur un laps de temps de 15 jours de temps, comme un mois. Mais au final, quelle est la réglementation officielle européenne là-dessus?
Alors, le règlement REACH prévoit la fourniture de tout un tas de tests. Il y a une batterie qui est assez complexe, qui est évolutive. C'est-à-dire qu'en fonction des résultats de premiers tests, qui sont des tests relativement simples, si on allume un signal d'alarme, on fera des tests un petit peu plus compliqués à des niveaux plus intégrateurs. Donc on va commencer par des tests de toxicité ou d'écotoxicité, donc effets plutôt santé humaine, effets plutôt environnementaux, en regardant dans un premier temps des choses comme de la mortalité par exemple. Sur l'écotox, on va regarder est-ce qu'une molécule est capable de faire mourir une algue, une daphnie, petite crevette d'eau douce, ou un poisson. En fonction de ces résultats-là, on va passer à des choses un peu plus complexes. Or, les tests de mortalité, on est sur des tests qui durent quelques heures, voire quelques jours. Si ça s'allume, on va passer sur des tests un petit peu plus complexes pour aller creuser est-ce qu'on est effectivement sur de la cancérogénèse, de la mutagénèse, etc., etc. Ou on va être sur des tests sur des organismes plutôt supérieurs. Donc on va abandonner l'algue et la daphnie, on va plutôt aller vers le poisson quand on est sur de l'écotox, plutôt vers du mammifère quand on est sur de la tox, avec des expositions qui sont plus longues. Effectivement, c'est extrêmement rare, mais ça arrive, d'aller sur des tests qui vont durer plusieurs années. Voilà, il faut vraiment avoir allumé beaucoup de signaux d'alerte pour passer sur un test très longue durée.
Du coup, on dit qu'il y a peu de cas où ça arrive, mais je vais reprendre l'exemple du Mediator, pour le coup, où pendant longtemps, on a justement laissé faire en pensant qu'il n'était pas dangereux, jusqu'à ce qu'on revienne dessus et qu'on se rende compte. Comment est-ce que ça peut arriver, justement, du coup?
Alors, oui, là, mais Monsieur Sanchez a répondu pour les substances chimiques. Là, on est dans un autre domaine, c'est les médicaments. Pour les médicaments, il y a vraiment des tests, je dirais, sur la molécule elle-même, qu'on peut effectuer sur des cultures de cellules. Et puis après, souvent, on passe au niveau des animaux. Bon. Et là, on voit bien le dernier test. Vous savez, la personne qui est morte, là, du 17 janvier, parce qu'il y avait une molécule d'un laboratoire portugais qui a été testée dans un laboratoire français, Biotral. Eh bien, on n'arrive pas à obtenir les études cliniques sur les chimpanzés qu'ils avaient effectuées sur ces molécules. Et vous voyez les conséquences, c'est que c'est volontaire. Alors souvent, c'est des étudiants. Là, en l'occurrence, la personne qui est morte, c'était un jeune qui travaillait et qui, en plus, pour avoir de l'argent, parce que ça coûtait, vous voyez, ça lui rapportait 1900 euros, sauf que ça lui a coûté la mort. Eh bien, là, on fait des études en phase 1, c'est-à-dire qu'on teste, vous voyez, en fonction de la quantité de matière de la molécule. Et puis on augmente de plus en plus. Puis après, il y a des tests de phase 2, où là, on met des placebos, quelle est la valeur ajoutée du médicament. Et puis après, il y a une phase 3. Donc c'est très codifié. Bon. Mais en même temps, vous voyez qu'il faut la transparence totale. Quand il y a eu cet accident, moi, de suite, j'ai demandé que le labo fournisse l'étude sur les chimpanzés. Est-ce qu'on aurait pu voir des choses? Eh bien, on me dit secret confidentiel. C'est-à-dire que vous voyez que là, on n'a pas accès à ces données et elles auraient pu donner des indices. Alors, le protocole a été publié. On s'est aperçu qu'ils n'avaient pas tout à fait respecté le protocole. Mais c'est très, très important, vous voyez, d'avoir accès à ces études. Donc, c'est quand même très codifié. Mais je voudrais revenir à un truc qui m'a choqué. C'est une polémique en ce moment qu'on a sur le glyphosate. Vous voyez, le glyphosate, c'est la substance active qu'il y a dans le Roundup. Et là, il y a un vrai scandale. Parce que l'agence européenne dit, moi j'ai fait des études sur le glyphosate et je trouve que c'est une molécule qui est très peu, qui n'est pas cancérigène, un peu génotoxique, mais ce n'est pas une molécule, vous voyez, très toxique. Et puis, on a le CIRC, qui est une émanation de l'Organisation mondiale de la santé, qui dit, c'est une substance cancérigène. Alors, on a fait, dans le cadre de ma commission, on a réuni l'OMS et l'EFSA. On leur dit, mais pourquoi vous n'obtenez pas le même résultat? Et alors, c'est là où on s'est aperçu que l'EFSA n'étudiait que la substance active et que l'OMS étudiait le Roundup, vous voyez, avec les adjuvants qu'on ajoute à la substance active et qui font qu'il y avait ces conséquences beaucoup plus toxiques. Alors, vous voyez que là, c'est du réductionnisme parce que l'EFSA se dit « Ah, mais nous, on nous donne comme rôle que d'étudier la substance active. » Mais je dis « Mais oui, mais le consommateur n'a pas la substance active, il a le Roundup. Si le Roundup avec les adjuvants sont hyper toxiques, eh bien vous êtes en train de tuer, voyez, d'un point de vue sanitaire, quand même énormément de personnes, alors que l'étude de l'EFSA, elle est très, très cool quoi, dans ses conclusions. Donc vous voyez qu'il y a aussi une arnaque dans la façon dont on fait, et vous avez tout à fait raison, dont on fait les essais. Si on étudie comme petit élément, bon, mais c'est pas très dangereux. Et Gilles-Éric Serralini m'avait mis un peu la puce à l'oreille en me disant, mais dans le Roundup, on met des adjuvants à base de pétrole brûlé. Eh bien, ces adjuvants sont hyper toxiques avec la substance active. Donc, vous voyez qu'il faut toujours prendre du recul. Et pour revenir à votre intervention sur la globalité de la santé, moi, je suis d'accord avec vous que on est encore dans une vision, vous voyez, il y a un symptôme, il doit y avoir le remède. On est dans une consommation de médicaments. Et on sent bien que les lobbies veulent dire « on aura toujours la solution à votre problème ». Regardez, en ce moment, on parle de Zika. Eh bien, de suite, qu'est-ce qu'on entend ? Il va falloir faire un vaccin sur Zika. Vous avez un bobo, on va vous faire un vaccin sur ce bobo. C'est-à-dire qu'on est en train de téléguider les gens en leur disant...
C'est une voyez santé que, de consommation.
Voilà, c'est, voilà. Et que la science apportera toujours des solutions. Et on n'est pas du tout dans une vision globale. On a un système immunitaire personnel qu'il faut entretenir, qu'il faut renforcer. C'est ça qui fera qu'on résistera à des bactéries agressives ou à des virus... vous voyez, qu'on mute, qui nous pose problème. Alors, bien sûr que la médecine, elle est indispensable. Mais il ne faut pas penser qu'on aura la solution miracle. Et plus on va vacciner, on l'a vu sur la gastro-entérite. Moi, j'étais furieuse contre le Rotatec ou le Rotarix. À un moment, on disait, voilà, c'est encore un vaccin recommandé. Eh bien, on s'est aperçu que les labos n'avaient pas fait remonter les effets secondaires, qu'il y avait eu plus de 2 décès chez les gamins, plus des problèmes d'invagination au niveau de l'appareil intestinal. Et que, suite à ça, donc ils ont mis 2 ans avant de faire remonter ces effets secondaires, on a supprimer la recommandation. Donc il faut qu'on soit vraiment très critique, non pas, il ne faut pas aller contre, bien sûr, les labos, ils sortent des molécules innovantes, pas assez à mon avis, parce qu'ils mettent trop de l'argent dans la communication et pas assez dans la recherche et développement, mais il ne faut pas s'imaginer qu'on aura une réponse, que la science va répondre à tout. Il faut responsabiliser les gens en disant la santé, ça vous appartient. Il faut faire attention à ce que vous ayez un équilibre personnel et ne pas penser qu'un petit bobo a toujours sa solution parce qu'un médicament, ce n'est pas un objet anodin. Pour moi, ça a des effets secondaires, on n'en parle pas assez et que moins on en consomme, mieux on se porte.
Bah, c'est super.
Alors oui, tout à l'heure, Monsieur Sanchez, vous d'ailleurs, vous parliez d'effet cocktail. On pourrait parler de tout notre écosystème comme un méga effet cocktail parce que tout est interdépendant, hein, tout est global. C'est dommage, effectivement, de toujours couper les cheveux en rondelles pour savoir d'où vient le problème. Nous avons un grave problème, pas tout à fait encore de santé. On a la chenille processionnaire qui se développe à vitesse grand V. Et si je peux me permettre de vous faire répéter un petit peu ce que vous disiez, c'est parce qu'il n'y a plus assez de...
Il y a moins de prédateurs, c'est sûr. En ce moment, avec les modifications du climat, il y a des prédateurs qui ne sont pas là au moment où il y a des chenilles qui commencent à se déplacer dans la nature, quoi.
Et pourquoi elles ne sont-ils pas là ? C'est parce que leur propre nourriture a été infectée par des pesticides, donc eux-mêmes sont morts, et que donc, voilà, on a la chenille processionnaire. Tout est comme ça. Donc c'est pour ça que, oui, aux tests effectués par vos types de labos, mais c'est vrai que si on oublie la globalité du système, c'est juste, je sens bien que vous êtes à fond dedans, dans un autre paradigme où on voit le problème de santé, voire tout notre écosystème de façon globale.
Moi, je voudrais vous raconter une anecdote sur les chenilles processionnaires. Vous savez, quand il y a eu Tchernobyl en 86, et bien en 87-88, il n'y en avait pratiquement plus. Vous savez pourquoi ? Parce que le césium s'était concentré au niveau des pins. Les aiguilles de pin, et ça avait tué en fait les chenilles processionnaires. Et c'est qu'après, progressivement, que ça se développe. Et maintenant, il y en a de partout. Hein? Donc, vous voyez que là, c'était la contamination des aiguilles de pin en césium qui avait tué les larves à l'époque. Et puis là, il faut les entretenir. Moi, je sais que chez moi, mais je les coupe, je les brûle, parce qu'il y a de moins en moins de prédateurs. Et pourquoi moins en moins de prédateurs ? Ben, les pesticides tuent tous les prédateurs qu'il y avait. Hein, donc, on est dans un monde où il y a une destruction progressive de la biodiversité. Vous voyez, les gens ne se rendent pas compte, mais plus un écosystème est riche, plus il va réguler. Moi, je le vois bien, j'essaie de développer la phagothérapie, si vous voulez, comment soigner avec des virus. C'est un truc qui me passionne, et il y a un colloque que j'organise à l'Assemblée nationale le 18 février. Eh bien... C'était un système qu'on avait développé avant l'arrivée des antibiotiques, qui arrivait à trouver des solutions. Je ne dis pas que ça va remplacer les antibiotiques, c'est complémentaire aux antibiotiques. Mais ça permet justement de pouvoir soigner rapidement les gens, de façon pas chère d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de brevet hein, sur les virus, puisque ce sont des êtres qu'on trouve tout autour de nous, et qui peuvent apporter certaines solutions. Et bien ça, qui c'est qui bloque pour l'instant ? C'est les labos. Alors c'est ça qui est marrant, parce que les labos disent « ça ne nous intéresse pas, nous, la phagothérapie, parce qu'on ne peut pas se faire du profit dessus ». Alors ce sont les médecins qui s'organisent, on l'organise maintenant sur le plan européen avec des bibliothèques de virus, pour que vous avez le choléra, vous avez par exemple un staphylocoque doré, vous êtes résistant aux antibiotiques, eh ben, on peut vous soigner. On le fait à l'heure actuelle, parce qu'il y a des expérimentations qui se font aussi sur les grands brûlés. Vous voyez, on saupoudre de virus pour pas qu'il y ait des infections. Et c'est des choses, si vous voulez, il faut vraiment diversifier notre façon de soigner les gens. Et pas seulement le médicament pour la solution.
Monsieur Sanchez, vous avez quelque chose à rajouter sur tout ce qu'on a pu dire ?
Je vais rebondir sur l'exemple des cerises. Il est intéressant, cerises organophosphorées. Il montre que finalement, on a tous une responsabilité dans cette contamination. Parce qu'effectivement, on pourrait trouver la réaction de la FNSEA un peu extrémiste en se disant pas de verre dans les cerises. Sauf que finalement, le consommateur, c'est ça peut-être qu'il attend. Des cerises propres, sans verre. Il y a eu quelques campagnes pour les légumes moches. C'est vrai que quand vous allez dans les supermarchés, les légumes moches, le consommateur a tendance à les écarter. Et finalement, on est passé d'une responsabilité qui était très localisée dans ces phénomènes de contamination. On se disait, c'est la faute des industriels, c'est la faute de telle personne, à quelque chose de plus globalisé où finalement on est tous responsables. Voilà, l'achat de produits pas beaux,
avec des verres,
ça en fait partie. Il y a tout ce qui est contrôle des rejets, le rejet des médicaments. On est tous responsables, il y a des filières de traitement qui existent, il faut les utiliser. Donc finalement, on est dans une société où on est tous un petit peu responsables de ce qui se passe. Il faut que tout le monde se saisisse de ces questions-là pour essayer d'améliorer les choses.
Vous voulez le dernier mot de la fin ?
Moi, j'ai tellement de choses à dire que ça se bouscule dans ma tête. J'ai vu un super film, Insecticide, mon amour, et qui parle de la flavescence dorée, qui est une bactérie qui s'est répandue sur le vignoble et qui, en 2013, a nécessité le passage de 3 pesticides dans tout le vignoble des Côtes d'Or, qui était un tout petit peu contaminé. Et quand on voit comment les vignobles sont mélangés aux villageois, aux villages, aux maisons, on peut se dire que le remède est peut-être bien plus mauvais que la maladie elle-même, quoi. Et que c'est une chose qu'il faut prendre en compte. On a beaucoup de mal à respecter la balance entre bénéfices et risques.
Madame Rivasi, qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'argument ? Est-ce que vous pensez qu'en Europe, à l'Europe, aux échelons supérieurs, on est sensible à ce genre d'argument holistique ?
Écoutez, les citoyens, oui. Certains députés européens, oui. Par contre, l'industrie, non. Parce que plus il y a des maladies, plus ils veulent encore montrer aux gens qu'il y aura le produit miracle. Sauf que ce produit miracle, c'est en l'occurrence des pesticides. Moi, je vous renvoie aussi à Cash Investigation, qui montre les conséquences des pesticides sur la santé et qu'il y a le profit qui est derrière et qu'il faut agir à très court terme. On n'est pas sur la diversité, par exemple, des variétés végétales. On n'est pas sur développant des écosystèmes très riches qui font que ça pourra aller à l'encontre de certaines maladies. C'est la chimie, la solution miracle. Eh bien ça, je n'y crois plus à ce paradigme-là. Parce que la chimie va aussi nous tuer.
Eh bien, merci Madame Rivasi, merci Monsieur Sanchez, Dominique Verdet, Erwan, d'avoir participé à cette émission. Financée, je le rappelle, sur le budget de députée européenne de Madame Rivasi. Encore merci à vous. Et à très bientôt pour une autre émission qui sera, elle, consacrée à l'Europe sociale. Au revoir à tous, merci.
Merci. Merci.
Parlons Europe. En partenariat avec Madame Rivasi. Une émission financée par le groupe Les Verts, ALE, Alliance Libre Européenne au Parlement européen.